Salomé Berlemont-Gilles, Le premier qui tombera, Grasset 2020. Lecture, Salomé Berlemont-Gilles et Annie Ferret.
Troisième partie, La plaine des asphodèles. Dans cette dernière partie, on retrouve Amadi, qui a désormais près de 50 ans, après la mort de ses parents. Après la mort de Marie, la famille trouve son équilibre dans un fonctionnement systématique. Un quotidien qui s'organise seul et ne dévie jamais de sa mesure. Dans le quartier, il y a cette légende. Une quasi-vérité, érigée en loi. Pas constitutionnelle, mais presque. Il y a les bons noirs et les mauvais noirs. C'est une affirmation qui vient de l'extérieur et qu'on vous impose, aussi sûrement qu'on vous a donné à la naissance un nom que vous n'avez pas demandé. Ça s'applique pour les Arabes, les Juifs et autres étrangers. Surtout ceux qui sont nés ici. Amadi et les frères ont grandi en pleine conscience de ces catégories. C'est pour ça qu'il fallait être poli, pour ne pas déranger. Parce qu'on n'est pas chez soi. Les bons et les mauvais, les truands, les bêtes, les hommes et les singes. Ces dichotomies assumées servent de cris de ralliement aux extrêmes et d'autels aux bien-pensants. Si on peut, et en dépit de sa nature, contre sa culture, il faut être un bon noir. Cette classification qu'on apprend sur ceux qui vivent au bout des lignes de métro, sur la racaille présumée, surtout celle qui est née ici. Les excuses aussi, que l'on donne aux jeunes trop défavorisés pour réussir et qu'on condamne avec mensuétude à rater leur vie, mais qu'on rassure en leur disant qu'ils sont des martyrs du système. Des générations coincées entre la haine et le fatalisme intellectuel engagé. Pour ceux qui ne sont pas suspects d'être originaires d'ailleurs, le concept d'ici n'existe pas plus que celui de là-bas. Ils n'ont pas la même responsabilité. Ils ne portent pas le même bagage ou le même espoir. Pas des parasites ou des ingrats. Juste des Français qui doivent leurs problèmes à autre chose qu'à leur incapacité à aimer ce qu'on leur donne. Pour eux, il y a des mesures à prendre, des logiques de long terme, un monde au-delà des situations de crise. Ils sont les valeurs sûres sur lesquelles on investit. La jeunesse à laquelle on pense, quand on dit quel est notre avenir. Avoir un là-bas vous condamne ici, parce qu'un bout de terre sans référence, qui n'a jamais rien voulu dire pour vous, entache la terre que vous foulez. Peut-être pour payer la liberté des ancêtres, sûrement parce que vous êtes des taches sur la mémoire collective. On n'a pas su les éduquer. Regarde maintenant les dégâts qu'ils font ici. Les mauvais noirs, les mauvais arabes, les mauvais d'ailleurs, ces pucerons sur la tige de la République.
Pour fuir la prison de Bobigny, il reste souvent dehors, en particulier la nuit. Ses retards au travail se transforment en absence. Si on se réveille pour aller au boulot après-midi, quelque part sur un banc, quel est l'intérêt d'y aller tout court? Fin août, les parcs sont encore chauds, et boire de la bière mélangée à de la vodka au bord de la Seine jusqu'à minuit n'est pas si pénible. Il se balade, se réapproprie Paris. Tous les soirs sont des bacchanales sombres, des festivités solitaires pour oublier. Au fond. Encore au fond. Un soir d'août, il marche sans but dans les rues de la capitale. Il décide de prendre le métro, d'aller se perdre encore un peu plus. Les couloirs souterrains sentent la pisse et le renfermer. L'ivresse rend le monde mou. Les contours des marches s'amortissent et se fondent. Il se concentre sur les escaliers qui deviennent des obstacles trompeurs. Il tombe plusieurs fois, se rattrape sur une des rampes. Il tombe encore. Il pense un instant à ne pas se relever, à s'endormir là, au milieu des marches, la hanche calée dans l'angle. Les flics viendront et il sera arrêté. Fatty devra aller au commissariat, comme c'est arrivé la semaine passée. Ils sont tous en colère. Essaye de lui donner une leçon, de lui enseigner un truc en ne s'occupant pas de lui. Ils verront bien. Il s'en fout de l'emmerder. Mais il ne veut pas voir sa sale face. Sale face. Il rit. Il se lève en gémissant, étourdi par la froideur des néons qui vient lui taper derrière l'œil. Il se hisse en haut, en tirant fort sur le bras gauche, et entraînant l'autre comme une rame encombrante. Sa cheville se dérobe à la fin de l'ascension, il s'affale au sol en claquetant, explose d'un rire sans douleur et sans honte. Il a assez bu pour ne pas sentir le sang qui déjà coagule sous sa peau en hématome. Il rit avec force, comme on dégueule, roule sur le flanc et se caresse le ventre, loge sa main dans le creux de sa poitrine pour sentir les os des côtes. Amusé par le bruit que font ses doigts sur ses os, il s'utilise comme un tambour de peau tendue et se joue une chanson. Titadou, ta-titadou. Il se frappe plus fort pour amplifier le son et éclate de rire en hurlant des paroles non articulées qui lui font secouer le bassin contre le sol froid et régulier du quai, comme une figurine de Noël montée sur moteur. Titadou, ta-titadou. La mélodie accélère, il frappe des pieds et se tord le genou en essayant de lancer ses jambes vers le plafond. Il est tard déjà. Les quelques voyageurs qui rentrent chez eux ont reculé de l'autre côté du quai, passifs, calmes, mais alertés. Titadou, ta-titadou. Une comptine que lui avait appris sa mère quand il était gamin à Conakry lui revient. Titadou, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Il s'esclaffe, reprend pour lui seul la chanson, en change un mot dans un murmure. Titadou, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui tombera aura une tapette. La poignée de la porte, pâlie comme de l'étain usé, grince quand elle tourne dans la main d'Amadi. Son suivi obligatoire est imposé par l'hôpital. Il n'a pas envie de se retrouver enfermé à nouveau. Il accepte de s'y conformer, réticent à l'idée d'aller à l'autre bout de Paris, chez ce médecin de Balthazar qui a l'air d'être fasciné par l'ambiance chasse, pêche et tradition. La salle d'attente est brune et orange, une farandole de canards d'hiver accrochés sur les murs. Sur l'un des posters, une escadrille de volatiles en formation serrée au-dessus d'un étang salue la moulure de coque qui traîne sur la commode. Il rejoint une des chaises en faux bois dans la pièce vide, habillée de rideaux fins, qui arrivent au mauvais endroit sur la fenêtre. Les murs sentent la poussière et la camomille. Des gravures végétales ornent le côté de l'armoire. Distrait, il se souvient encore des néons froids du couloir des urgences, du visage de Hiérault qui est venu le voir le lendemain matin. Ils ont tous signé le papier d'internement, même Adama. Ça, il a encore du mal à l'accepter. Il frémit en pensant à l'intérieur de l'hôpital, à la première semaine sans alcool où la patine de l'ivresse laisse place à l'acidité qui perce l'estomac. Il chiait toute la nuit. La viande en sauce servie dans les plats en plastique le traversait sans le nourrir. Affalé dans les fauteuils rouges de la salle commune où la télévision était fixée au mur et protégée par un cadre en plastique, il s'est demandé comment il avait pu en arriver là. L'assistante sociale qu'on lui a attribuée avait tapoté sur son clavier gris pour lui dire que son cas n'était pas dramatique. Elle avait un rouge à lèvres rose vif, appliqué très nettement sur les contours redéfinis de sa bouche, était d'une bonne nature. Elle lui a dit qu'il avait l'air en forme et qu'on ne donnait pas souvent de logements sociaux aux hommes seuls, même à 49 ans. Elle avait souri comme pour s'excuser. Dans la salle d'attente, il n'a pas rechuté. Une semaine dehors, pas un verre. Mais sa sobriété est fragile. Il se demande quand il va boire de nouveau. Il ne sait pas quand, mais il sait qu'il le fera. Il a appris à ne pas se faire confiance. Il veut juste repousser l'échéance pour éviter d'être détecté par les médecins, pour essayer quand même, peut-être, loin de sa propre capacité de sabotage. La poussière le fait éternuer, il traîne une migraine épaisse. Il se mouche dans une vieille serviette qu'il trouve au fond de sa poche. Dans l'entrée, Il entend quelqu'un d'autre qui s'essuie discrètement les pieds sur la moquette et la poignée d'étain qui grince et le parquet qui craque. Il tourne la tête pour ne pas avoir à être gêné. Il se reprend et dit bonjour à contre-cœur. Une jeune femme est entrée. Il se racle la gorge pour couvrir le bruit qu'elle fait en s'affairant et en déposant ses affaires en corolle autour de sa chaise. Elle gigote, prend un des magazines entassés sous la table basse couverte d'une vitre protégée par un apron. Elle a la mâchoire carrée. On devine sous la peau grassouillette de son visage de grandes rangées de dents blanches. Un parfait alignement. Ses lèvres sont petites, rondes et ourlées en mou étonné. Son nez rebondit de son front. Elle le fronce en tournant les pages trop vite pour lire. Engoncée dans une robe qui remonte sur ses hanches et l'entoure de noir, elle porte des bottes bordeaux ternies qui se plissent sur son mollet et s'arrêtent au-dessous des genoux larges et osseux. Sa peau est claire, ses lèvres d'un carmin passé. Amadi s'attarde sur la courbe de sa bouche. Il croise son front ombragé par des sourcils épais, naturels, ses grands yeux de cheval presque noirs ponctués d'un reflet noisette, une révérence d'enfant étirée jusqu'aux cils. Ses cheveux dégringolent sur son visage, épais et lourd. Il foisonne autour de sa tête et se décline en mèches d'or, plus ou moins fondues entre le blond et le brun. Elle secoue ses cheveux. Amadi la trouve belle, jeune aussi. Ses mains sont encore lisses et roses à l'intérieur. Il revient au coq au-dessus de la commode pour ne pas la gêner. Un éternuement le sort de sa rêverie. La serviette qu'il utilise pour se moucher se décompose sur ses doigts. Honteux, il la fourre dans sa poche et s'essuie la main sur le tissu avec précipitation. La fille lève les yeux. Elle se pose un moment, sourit et fait disparaître sa main dans le sac mou qu'elle fouette et soulève. Sans parler, elle se redresse, un mouchoir à la main. Elle le dépose dans celle d'Amadi. D'abord le mouchoir, puis la caresse. Elle l'a touché doucement, sans le savoir peut-être, avec le bout des doigts quand elle a déposé son offrande. Elle n'a pas parlé, elle l'a touché sans le soutien d'un mot. Amadi frémit et détourne la tête, il oublie de dire merci et la regarde se rasseoir, une émotion monte en vague du fond de lui. La marque de ses doigts résonne sur sa paume comme un hâle de douceur. Elle le regarde maintenant, yeux noirs bordés de noir. Il est trop bouleversé pour baisser la tête. Il a presque immédiatement envie d'elle. Elle est jeune. Il se dit à peine 20 ans. Et c'est cette jeunesse-là qui l'attire. Comme beaucoup avant lui, il a envie de capturer cette vie qui n'a pas encore commencé. Elle lui sourit. Elle dit bonjour. Elle dit qu'elle s'appelle Elena. Il écoute à peine son nom, concentré sur les courbes rouges de sa bouche. Il passe en premier. Le médecin est doux mais désintéressé et expéditif. Il lui prévoit des analyses d'urine et lui demande d'aller réaliser une prise de sang au laboratoire avant la fin de la semaine. Il lui pose des questions sur son expérience à l'hôpital et enchaîne les politesses routinières sur la famille et le travail. Amadi lui dit qu'il est en arrêt maladie longue durée. Un statu quo qui lui convient puisqu'il est payé sans avoir à se courber pour ramasser les feuilles des espaces verts. Le médecin tout saute, indifférent. Il fait l'ordonnance, accepte le tiers payant, télé envoie le reçu de carte vitale. Amadi sort. La visite a duré 2 fois moins longtemps que l'attente. Dans l'escalier, il lui prend une envie de revoir Elena. Elle ne lui a pas laissé son numéro de téléphone, mais il n'a pas demandé non plus. Il ne coûte rien de tenter sa chance. À presque 50 ans, on a même plutôt intérêt à saisir les occasions, pense-t-il. Il décide de l'attendre en bas en fumant une cigarette. Il essaye d'arranger son blouson en tirant sur les poches du bas pour le lisser, cherche à se voir dans le reflet d'une fenêtre. Les pavés sont jolis, délimités par des petites lignes blanches et explosées en mosaïque de gris. Il regarde le sol et ses pieds, et l'épicerie qui fait le coin de la rue d'en face. Les pamplemousses sur l'étalage noircissent. Quand elle sort de sa consultation, elle le voit l'attendre à travers la porte en verre. Il est par-delà la grille, nerveux, excité. Il a renfoncé son bonnet sur sa tête et ses oreilles ressortent inégalement de chaque côté. Son crâne rasé dépasse. Il lui plaît aussi. Quand elle passe la porte, il l'invite dans le café en face du cabinet pour parler. Il bégaye comme un garçon quand il lui propose. Elle trouve cela touchant. Le café ressemble à tous les troquets médiocres de l'Ouest parisien. Le cuir des banquettes rouges transpire sa mousse qui dépasse aux coutures. Le sol gris tacheté colle aux chaussures et les chaises en bois sombre de peu de valeur s'entassent devant des tables vernies. Le serveur, un petit type aux yeux bleus tendus, les surveille quand ils entrent. Il se décide à aller chercher une carte, salue les autres clients regroupés le long de la baie vitrée. Amadi et Elena vont s'asseoir à la table du fond, derrière les fausses fleurs suspendues à l'abri des visages curieux et des quelques couples ennuyés de se voir face à face qui cherchent dans l'alentour le sursis d'une distraction. Le serveur déambule, pas pressé, vif, agressif. Il dépose un café au lait sous le menton de la blonde aux ongles rognés qui lit un livre seul près des toilettes. Il traîne l'addition enroulée dans le pot qui contient du sucre, montre les dents au cours d'un bref sourire automatique et retourne derrière le comptoir qui sent le gras et la cacahuète. Un type trop grand pour son costume bleu marine commande un cognac qu'on lui sert et qu'il avale d'un trait. Assis du bout de la fesse sur le tabouret haut, il demande à payer. Du jazz sans qualité se diffuse depuis les haut-parleurs. Le serveur évite de remarquer Amadi, avec toute l'hostilité contenue dans une politesse réservée. Au troisième raclement de gorge, il se résigne à lui demander mécaniquement ce que le monsieur veut. Il dit « monsieur » comme on dit « chien », avec mépris. Amadi se retourne vers Elena, qui se décide pour un verre de vin. Lui hésite, mais décide de la suivre et de rompre ses engagements. Le visage du serveur sombre d'une suspicion. Il lui annonce le prix avant d'aller chercher les bouteilles, marque une pause et savoure la crispation d'Amadi qui tâte dans sa poche le porte-monnaie en cuir sans structure où s'entrechoquent des pièces fines. Il répète le prix, fixe Amadi avec défiance. Ce dernier ouvre discrètement la fermeture de la poche de cuir et fait glisser la monnaie dans sa main. Certaines pièces dégringolent au fond de la poche. Il sent à la forme des cercles de métal qu'il ne pourra pas payer. Sobrement, il demande le prix de 2 cafés. Le barista grogne 5,40 € et manifeste son agacement avec ostentation. Il savait que le type ne pourrait pas payer. Il a tout de suite vu sa veste en plastique et le bonnet usé, et sa gueule mal assortie et la gamine avec laquelle il flirtait. Il trouve ça dégueulasse. Les assistés qui se dégotent une gonzesse trop triste pour espérer mieux. Amadi secoue sa main à l'intérieur de son manteau. Il sort les pièces une par une et les pose à plat dans une de ses paumes. Les doigts qui prolongent l'autre bras continuent à pêcher dans la poche. La quête est lente, laborieuse. La gêne le rend maladroit. En plissant les yeux, Amadi compte douloureusement les dizaines de centimes, le cœur serré quand il sent les cliquetis s'amenuiser dans la poche et la réserve tarir. Amadi dépose la somme due sur la table. L'autre picore les pièces entre mimique et soupir et va faire les cafés, qu'il dépose sur le bar. Amadi doit aller les chercher lui-même. Il ne lui accorde pas autre chose que la présomption de misère. On ne sert pas les gens qui payent en pièces orangées. Quand il retourne s'asseoir, les cafés gigotent dans ses mains et débordent sur les soucoupes.